Alors, bonjour à tout le monde, et malgré les... malgré les problèmes techniques, Dieu voulant, nous allons pouvoir étudier, écouter la parole de Dieu ensemble. Dieu voulant, durant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, je voudrais traverser avec vous une étude dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 17. Nous savons que le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs offraient les sacrifices sanglants à Dieu et c'était en type, en image de Christ, le souverain sacrificateur. Alors, si nous voulons savoir comment le Seigneur Jésus s'adressait, il faut couper leur micro.
Voilà.
D'accord. Donc, c'est pourquoi cette prière est appelée ici une prière sacerdotale. Si nous voulons savoir comment le Seigneur Jésus s'adressait à son Père à l'égard de son peuple, nous avons cela écrit ici dans Jean 17. Alors, avant de continuer, nous allons demander au Seigneur sa bénédiction dans la prière. Et si, frère Aurélien, tu veux simplement prier en dialecte, ça peut nous, nous aider, oui. Je voudrais simplement traverser les cinq premiers versets de ce chapitre, vous voyez qu'il y a 26 versets et j'ai 5 occasions de pouvoir prêcher, commençant aujourd'hui jusqu'à samedi. Donc, Dieu voulant, nous allons découper cela en 5 parties. Mais aujourd'hui, du verset 1 au verset 5. Alors, dans le premier verset et ce qui suit, nous voyons que dans cette prière, le désir du Seigneur Jésus, c'est de glorifier son Père. Et aussi, dans cette prière, son désir, sa prière, c'est que Dieu le glorifie. Donc, nous avons le Fils qui veut glorifier le Père et il demande à ce que le Père le glorifie. Oui. Alors, nous lisons, après avoir ainsi parlé, Jésus... Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Alors, nous devons comprendre que les divisions que nous avons dans nos Bibles avec ces chapitres ont été introduites par les rédacteurs dans l'original. Quand on regarde la manière que c'est écrit dans l'Évangile selon Jean, dans le grec, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Lorsqu'ils ont commencé à imprimer des copies de la Bible, ils ont ajouté des versets pour nous aider à nous retrouver dans la lecture publique. Alors souvent, quand on commence un chapitre comme nous avons ici, où c'est écrit « après avoir ainsi parlé », donc il faut remonter un peu dans le contexte pour savoir ce que le Seigneur a dit après avoir ainsi parlé. Et ce que nous pouvons constater, si on avait le temps, on aurait commencé dans Jean chapitre 13 et voir 13, 14, 15 et 16 où le Seigneur Jésus est en train de préparer ses disciples pour sa mort. et sa résurrection. Mais en ce qui concerne sa mort, il leur a dit quelque chose qui était pour eux un peu étonnant. C'est écrit dans le verset 32, « Voici l'heure vient, ça c'est Jean 16, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Alors, ça c'est une vérité très importante pour nous de comprendre, c'est que si c'était possible que selon nos efforts ou bien selon notre fidélité, on arriverait à obéir à Dieu et à suivre Christ, donc ce ne serait pas nécessaire pour Christ de mourir. Mais ce que Christ est en train de leur dire et nous dire, c'est que cette œuvre du salut est uniquement l'œuvre de Christ, que l'homme ne peut pas ajouter quoi que ce soit à son œuvre. Dans le prophète Zacharie, ça a été prophétisé que Dieu allait frapper le berger et que les brebis devaient se disperser. Il faut que quelqu'un coupe son nos paroles là. Ok. Dans Zacharie chapitre 13, et je sais que c'est peut-être un livre on n'a pas l'habitude de lire, mais dans l'Ancien Testament, si vous allez à Malachie et puis en arrière un livre, Zacharie chapitre 13 et le verset 7, nous voyons cette prophétie.
Chapitre 7, verset 7, Zacharie
écrit là, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, ça c'est le berger, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. J'entends toujours l'écho. Ok. Donc, c'est de ce verset que Christ est en train de dire ici dans Jean 16 et le verset 32, la réalisation de cette prophétie, qu'il, lui, Christ, devait être frappé comme le berger, et cela à cause des péchés de ses brebis. Donc, les brebis devaient être dispersées, mais à la fin, comme c'est écrit ici, je tournerai ma main vers les faibles. C'est tout ce que nous sommes. Faibles. Mais l'œuvre est à Christ. C'est ce que nous devons comprendre et apprendre par la grâce de Dieu, combien nous sommes faibles, nous sommes incapables. Je sais que les gens aiment rendre ces témoignages qui vont suivre Jésus. Non, laissez à nous-mêmes, aucun ne peut suivre Christ. C'est Christ lui-même qui doit accomplir cette œuvre de salut à l'égard de son peuple. Pierre lui-même devait apprendre cette leçon dure parce que au départ, il a dit qu'il allait suivre Christ jusqu'au bout. Mais Christ lui a dit que non, que trois fois, Pierre lui-même, laissait à lui-même aller nier le Seigneur. Mais Christ ici dans Jean 16 et le verset 32 est en train de dire ce n'est pas seulement Pierre, mais chacun sera dispersé, chacun de son côté. Et il dit, vous me laisserez seul. Tel est notre cœur, si c'était à nous-mêmes.
Voilà.
Alors, si nous comprenons le message de la Bible, c'est de savoir que le salut est une alliance entre le Père et le Fils. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à cette alliance que le Fils a satisfait à son Père. Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour le salut de son peuple. C'est pourquoi les brebis devaient être dispersées. Alors, quand Christ dit ici dans Jean 16 et verset 32 que vous me laisserez seul, ce n'est pas une plainte, c'est une réalité. Il est en train de le dire, il faut que ça soit ainsi, que Christ seul soit celui qui a accompli le salut. Et voilà le problème avec le message populaire prêché aujourd'hui, parce qu'on veut toujours ajouter l'homme dedans. L'homme veut toujours avoir sa part, mais la réalité, la vérité, c'est que l'homme n'a aucune part dans ce qui concerne le salut. C'est l'œuvre de Christ seul. Mais Christ dit dans Jean 16 et le verset 32, je ne suis pas seul car le Père, notez bien, est avec moi, est toujours avec moi, depuis l'éternité. Si quelqu'un peut couper le micro, voilà. Parce que ça fait l'écho. Il y a un délai, ouais. Ok. Oui, c'est bien. Seulement, de temps en temps, j'entends un écho. Cela veut dire que quelqu'un est en train d'écouter sur son appareil. Et donc, c'est ça qui fait l'écho. Ah, OK. OK. On progresse. Alors, c'est dans ce contexte, que Christ, dans Jean 17 et le verset 1, dit « Après avoir ainsi parlé ». Voyez le contexte. Et en effet, quand Christ est en train d'adresser ses paroles à son Père, il est seul avec son Père. Ça, c'est un exemple du salut, que c'est entre le Père et le Fils que cela est accompli. Mais nous savons que le Père et le Fils sont égaux. Cela veut dire le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Mais quand il est venu dans ce monde, il est devenu un homme afin de représenter les hommes ou bien les pécheurs que le Père lui avait donné depuis l'éternité. Je ne sais pas si le technicien peut nous aider là pour ne pas qu'il y ait l'écho. Il y a un petit délai. OK. Dans Philippiens chapitre 2 et le verset 6, nous voyons ce que l'Esprit a dirigé, Paul a écrit au sujet de la venue de Christ dans ce monde. C'est écrit dans le verset 6, Philippiens 2, lequel existant en forme de Dieu, n'ayant point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà ce que nous voyons dans cette prière.
Mais c'est dépouillé en prenant une forme de serviteur.
ça dérange l'écoute.
Il y a l'écoute. Donc, c'est l'écoute. C'est l'écoute de la connexion.
Oui, mais ça vient, ça vient par... c'est par les autres parleurs ou bien comment?
Bon, par exemple, j'ai essayé de couper le micro de mon ordinateur par lequel vous écoutez ma voix.
Ah oui, d'accord.
Après ça, vous pouvez m'entendre plus.
Voilà. Ah, je vois.
C'est arrivé encore.
Oui.
Donc, c'est le silence autour de vous et l'écho là-bas. Est-ce que l'autre ordinateur fonctionne? Donc, il faut couper tous les micros qui sont là.
C'est ça. Oui, il faut que ton micro marche, mais pour les autres, j'entends ça à travers les autres parleurs quelque part. Ah oui.
Je vais expliquer à la salle aussi pour qu'ils comprennent.
Voilà, parce que s'ils ont leur appareil et qu'ils sont en train d'écouter. C'est ça, il doit couper ça.
Ça aussi fonctionne. Est-ce que tu as coupé le micro de ça? Le micro de Skype là, voilà. Et on a fonctionné là. Le micro de Skype. Et là, on a fait un micro.
Il suffit qu'ils coupent l'eau-parleur sur leur appareil individuellement.
Et côté vidéo, là, on fait le
si tout le monde a leur appareil ouvert avec l'eau-parleur, donc avec le délai, c'est ça qu'on est en train d'entendre. Oui, il faut qu'ils écoutent à travers ton appareil seul, par leur propre. Voilà. La technologie, c'est comme un ami quand ça marche et c'est comme l'ennemi quand ça ne marche pas. Donc, on était sur Philippiens chapitre 2 pour savoir que Christ n'a pas cessé d'être Dieu lorsqu'il est venu dans la chair. Mais étant devenu homme, il est devenu, c'est écrit, semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Donc c'est comme ça qu'il prie ici dans Jean 17 à son père. En tant que médiateur, il faut savoir qu'il est venu représenter des hommes pécheurs comme nous, ceux que le Père lui avait donné depuis l'éternité, et c'est pour eux maintenant qu'il s'adresse à son Père.
Oui.
Donc, c'est écrit dans Jean 17 et le verset 1 qu'il leva les yeux au ciel. En tant qu'homme, maintenant, il regarde vers le ciel. C'est une position d'humiliation devant son Père qui est encore au ciel. Souvent les gens me posent la question, mais quelle est la bonne position pour la prière? Est-ce qu'on doit baisser la tête? Est-ce qu'on doit lever les mains? Est-ce qu'on doit être prosterné? Quelle est la bonne position pour la prière? Ici, c'est écrit, Jésus leva les yeux au ciel. Donc, imaginons, dans la prière, il est en train de regarder au ciel, les yeux ouverts. Ailleurs, dans le jardin de Gethsémané, nous voyons qu'il s'est prosterné à terre à un moment donné. Donc, cela veut dire que ce n'est pas la position du corps, mais plutôt du cœur. Ici, Christ est seul avec son Père. Mais souvent, quand nous sommes en public, pour éviter les distractions, c'est pourquoi nous disons, baissons la tête et fermons les yeux, adressons-nous à Dieu par Jésus-Christ. C'est le cœur qui importe. Mais nous savons que Christ s'adresse ici à son Père avec humilité et avec tendresse en tant que l'homme médiateur. En effet, le Seigneur Jésus est en train d'adresser à son père dans la prière exactement comment il a enseigné ses disciples à prier. Dans Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 7, nous avons des instructions très importantes au sujet de la prière. C'est écrit dans le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Faut dire dans beaucoup d'assemblées, il y a de vaines paroles qui se propagent à travers ce qu'ils appellent des réunions de prière, parce que chacun veut se faire entendre devant Dieu. Pourtant, Christ dit, ce n'est pas de cette manière que nous serons entendus, à force de paroles. Non. Devant Dieu, il faut que nos paroles soient mesurées, c'est-à-dire que ça provient de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur qui nous pousse maintenant à adresser ces paroles à Dieu le Père. Notez bien dans le verset 8 de Matthieu 6, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 8, ne leur ressemblez pas. Que je voudrais souligner qui correspond avec la manière que Christ lui-même donne l'exemple, c'est dans le verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Okay, let's go.
Le mot sanctifié signifie que son nom est au-dessus de tout nom. Donc, nous ne devons pas nous adresser à lui comme nous adressons à des amis. Et alors, quand on leur entend parler à Dieu, ils s'adressent à Dieu comme si c'est Dieu qui est leur serviteur. Ils sont en train d'exiger de lui, demander des choses, crier, comme si c'était un enfant. Dieu est au-dessus de tout. Son nom doit être sanctifié. C'est comme ça que Christ s'adresse ici dans Jean 17, le verset 1 à son Père. Il dit, si on revient, on revient dans le verset 1, l'heure est venue. Dans le verset 32 de Jean 16, il a dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, une heure précise. Et ceci correspond avec ce que nous lisons dans Galates chapitre 4 et le verset 4 où l'Esprit a dirigé Paul à écrire, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, et verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Galates chapitre 4.
Galates 4 ou plutôt, verset
4. 4 et 5.
Verset 4 ou 5.
Cela nous montre que l'œuvre que Christ est venu accomplir était selon un plan éternel, selon le dessein éternel de Dieu le Père. Ça n'a pas commencé ici. Il y en a qui prêchent la venue de Christ comme s'il est venu dans le monde et voilà, maintenant les gens l'ont rejeté et hélas, on l'a crucifié. Donc, Dieu doit maintenant reprendre avec les hommes puisqu'ils n'ont pas accepté son Fils. Voilà comment souvent Christ est prêché.
Mais
Mais lorsque Christ dit l'heure est venue, il est en train de nous dire que c'était selon ce que le Père a ordonné à son égard. Ce n'était pas une surprise pour lui. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde pour autre raison que d'accomplir la volonté de son Père et de se soumettre à la mort de la croix afin de payer la dette pour ceux pour qui il prie maintenant. Dans Actes chapitre 2, au jour de Pentecôte, Pierre s'est levé pour annoncer ceci dans le verset 23, Actes 2, 23. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est que si Christ est mort pour nous, donc ce sont nos mains, nous, ce sont la main des impies, c'est nous les impies qui ont livré, c'est à cause de nos péchés qu'il a été livré, mais toujours selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. J'entends certains dire souvent, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ceci au Seigneur Jésus? Pourtant, ils étaient nos représentants. Ce qu'ils ont fait, si on était là nous-mêmes, on aurait fait la même chose. Parce que ce sont mes péchés. Si Christ est mort pour moi, ce sont mes péchés qui l'ont cloué à la croix. J'ai entendu un homme me dire une fois, si j'étais là, je n'aurais jamais crucifié Christ. Cet homme est aveugle. Il n'a jamais vu son état de péché avant. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que c'était selon cet écrit ici, le dessein arrêté de Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. C'est pourquoi Christ a pu dire, l'heure est venue pour accomplir maintenant ce salut que le Père l'a envoyé à accomplir. Et vous voyez dans le verset 23 de Acte 2, c'est écrit selon la préscience de Dieu. Il y en a qui comprennent ça en disant, ah oui, Dieu a vu d'abord ce que les hommes allaient faire et donc c'est comme ça, il avait la préscience. Mais ce n'est pas le sens de ce mot. Voici ce que nous devons comprendre concernant le Dieu de la Bible. C'est qu'il connaît toutes choses d'avance parce qu'il a destiné toutes choses d'avance. C'est pourquoi il connaît. Mais les gens veulent que Dieu regarde pour voir comment les gens vont agir et puis maintenant Dieu réagit. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ceux qui sont encore dans leur incrédulité, leur ignorance, souvent c'est pourquoi ils viennent au culte. Ils imaginent apporter quelque chose qui va maintenant influencer Dieu et recevoir quelque chose en retour. Voilà comment ils raisonnent. Regardez dans Actes chapitre 17 et le verset 24 à 26. C'est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, notez bien, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes.
Et Et nous mettons le mot dans tête en mot pour comprendre. Mais alors, tu te rends là, il y a.
Pourtant, quand on voit les temples que les gens construisent au nom de Dieu, imaginant que Dieu existe là, habite là, ça démontre la folie. C'est ce qui étonnait les gens lorsque Christ est venu dans le monde, parce qu'ils étaient fiers de ce temple qui était au milieu d'eux. Pourtant, Christ était le temple de Dieu. Dieu habitait en lui, mais ils l'ont crucifié pour continuer à adorer Dieu de leur façon. Et notez encore dans Actes 17, 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est pourquoi c'était nécessaire ici dans la prière sacerdotale de Christ qu'il soit seul avec son Père, parce que c'est une œuvre qu'il devait accomplir à l'égard de ce que le Père lui a donné. En fait, les disciples étaient éloignés en train de dormir. Je suis en train de vous prêcher une vérité que les hommes naturels n'aiment pas entendre, parce que l'homme veut toujours faire quelque chose, il veut toujours avoir une certaine gloire, mais toute la gloire revient à Dieu. Je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle que il y a peu, même à Boïcon, comme ici à Shreveport, qui veulent entendre ce message, parce que toute la gloire revient à Christ et Christ seul.
Maintenant, je vais vous dire,
C'est pourquoi, en revenant dans Jean 17 et le verset 1, maintenant, nous comprenons pourquoi Christ dit « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc, il est en train de prier exactement comme le Père lui-même a ordonné, à ce que toute la gloire dans la vie, comme dans le salut, revient à Christ et Christ seul. Ceux qui prétendent glorifier Dieu tout en voulant recevoir une partie de cette gloire pour eux-mêmes ne sont pas en train de glorifier Dieu. Vous entendez certainement prêcher des gens qui disent « Oui, mais Dieu a fait tout ce qu'il peut, maintenant le reste dépend de vous. » Les gens aiment un tel message parce que ça donne une partie du pouvoir entre les mains des hommes pour dire « Ah, donc Dieu attend ce que je fasse quelque chose. » Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dans le verset 2 de notre chapitre, Jean 17, notez, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il y a des gens qui me disent, ah, mais tu peux croire comme tu veux concernant ton Jésus, ton Christ, qu'il est souverain, mais moi, je sais en qui j'ai cru. C'est comme s'il y a deux différents Jésus. Notez comment Christ prie ici dans le verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Cela veut dire que toute chair, tous les hommes du monde entier sont entre ses mains comme le juge, le souverain, le roi.
Et
Les hommes aujourd'hui ont un Jésus qui est entre leurs mains, comme une petite idole. Donc, c'est à eux de décider s'ils vont accepter ce Jésus ou pas. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Et je dois dire, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui jusqu'alors imagine que le Seigneur Jésus est de cette manière, il est entre mes mains et il attend ma volonté, ma décision pour qu'il fasse quoi que ce soit, je dois vous dire que vous êtes encore dans vos péchés, que Christ n'est pas encore révélé à vous. Je me souviens bien, j'étais déjà prédicateur, je prenais cette parole et je prêchais, mais je me souviens quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert le cœur et en lisant Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe a vu le Seigneur élevé dans toute sa gloire, je me suis dit, comme lui, malheur à moi. Quand c'est écrit ici, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, cela veut dire que c'est à lui de décider qui il sauve et qui il condamne. Quand je prêche, je ne sais pas qui le Seigneur va attirer ou bien qui va laisser à eux-mêmes. Ça, c'est son choix. Seulement, la Bible me dit d'annoncer Christ aux pécheurs et c'est Dieu qui attirera ceux pour qui il a envoyé son fils et pour qui son fils est mort. Vous êtes rassemblés pour toute une semaine pour étudier et écouter cette parole. Et je sais que même si je ne suis pas en train de prêcher, le frère Aurélien est en train de vous annoncer ce Christ. Mais je dois dire que ce n'est pas vous tous qui peuvent dire, puisque vous êtes au camp, que alors je suis à Dieu. Non. Il y en a certainement qui sont venus par curiosité. Ils viennent s'asseoir, écouter. C'est une occasion de se rassembler avec des amis. Tout ça sous le prétexte d'écouter la parole de Dieu. Mais si Dieu vous laisse dans cet état-là, certainement, vous êtes condamné. Alors, peut-être vous vous posez la question, mais comment on peut savoir si c'est pour moi que Christ est venu, pour qui il est mort ou pas? La réponse, c'est clairement dans le verset 2, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 2. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alors, nous avons commencé un peu tardivement aujourd'hui et j'ai encore un autre rendez-vous, mais nous allons reprendre ici demain, Dieu voulant. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Voilà la manière que l'Esprit agit dans le cœur de ceux pour qui Christ est venu. Qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est un début. Prions pour que le Seigneur vous bénisse lorsque vous continuez à écouter cet évangile à travers cette journée et Dieu voulant, demain, je serai au rendez-vous avec vous encore et nous allons continuer cette étude ici dans Jean 17. Et je remercie le Seigneur qu'il a rectifié quand même la technologie un peu pour qu'on puisse écouter, adorer le Seigneur ensemble. Amen. Alors que le Seigneur soit avec vous et Dieu voulant à demain.
Oui, merci, qu'il soit pareillement avec toi.
Merci. Je sais sur le programme, c'est écrit repas, donc je ne voudrais pas être celui qui empêche les gens à manger.
Ah, oui.
Bon repas.
Sur le programme, il y a vraiment repas.
Allez, repas et repos. Donc, reposez-vous bien.
Oui, oui.
Et à demain.
Amen, à demain.
D'accord, merci.